Audible Studio présente La roue du temps, tome 10, Le carrefour du crépuscule, de Robert Jordan. Traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Arnaud Leridan. Quand la horde sauvage chevauchera, tandis que la main droite faiblira et que la gauche se dérobera, viendra le temps où l'humanité sera face au carrefour du crépuscule. Alors, tout ce qui est, tout ce qui fut et tout ce qui sera se retrouvera en équilibre sur la pointe d'une épée, et les vents des ténèbres se déchaîneront. Extrait des Prophéties du Dragon, traduction attribuée à Jane Charin, célèbre sous le nom de Jane l'Explorateur, et réalisée peu avant sa disparition. Prologue. Même s'il savait que c'était le pain quotidien d'un militaire, Rodel Itourald détestait attendre. La bataille à venir, le mouvement suivant de l'ennemi, sa prochaine erreur. Aussi immobile qu'un arbre, Itourald scrutait la forêt hivernale. À mi-chemin de son zénith, le soleil ne générait aucune chaleur. Gelant dès qu'il expirait, le souffle du général recouvrait de givre sa moustache impeccablement taillée et la fourrure de renard noir qui bordait sa capuche. Une chance que son casque soit accroché au pommeau de sa selle. Captant le froid, son plastron le diffusait vers ses multiples couches de vêtements, des strates de laine, de soie et de lin. Même la selle de flèche était gelée, comme si le hongre blanc n'était plus qu'une grande statue de lait glacé. Le casque aurait congelé le cerveau d'Itourald, brouillant ses idées. En Arad Doman, le froid était arrivé très tard, mais depuis, il rattrapait le temps perdu. D'un automne anormalement chaud, il avait fallu moins d'un mois pour basculer au cœur de l'hiver. Desséchées après un très long été, les feuilles des arbres avaient gelé avant de pouvoir changer de couleur. À présent, elles scintillaient comme d'étranges émeraudes enveloppées de givre. Autour d'Itourald, les chevaux des quelques 20 soldats qui l'escortaient piétinaient parfois nerveusement dans l'épaisse couche de neige. Pour arriver jusque-là, la route avait été longue, et il restait du chemin à faire, que cette journée se révèle bonne ou mauvaise. Dans le ciel, des nuages noirs venus du nord dérivaient vers les cavaliers. Pour savoir que la température tomberait en flèche avant la nuit, inutile de consulter un devin du climat. D'ici là, la colonne devrait avoir trouvé un abri.
« L'avant-dernier hiver était bien plus rude, n'est-ce pas, général ?» dit Jahalam d'un ton égal.
Ce jeune officier de grande taille avait un don pour lire les pensées d'Itourald, et il parlait juste assez haut pour que tous les autres entendent.
« Malgré tout, plus d'un homme rêverait d'une chope de vin chaud, mais pas nos gars, bien entendu. Des parangons de sobriété, tous amateurs d'infusion, je parie, froide de préférence. S'ils avaient des verges pour se flageller, ils se déshabilleraient et prendraient un bain de neige. Eh bien, pour l'heure, ils devront garder leurs vêtements, »
répondit Itourald, cassant.
Mais avec un peu de chance, ce soir, ils auront de l'infusion glacée.
Des rires discrets saluèrent le trait d'esprit. Triés sur le volet, ces hommes savaient quand il fallait ne pas faire de bruit. Itourald lui-même n'aurait pas refusé un gobelet de vin chaud aux épices, voire une infusion fumante. Mais depuis beau temps, les marchands n'apportaient plus ces merveilles en Arad Doman. À dire vrai, ça faisait une petite éternité qu'aucun marchand étranger ne s'était aventuré au-delà de la frontière du Saldaïa. Quand les nouvelles arrivaient aux oreilles du général, elles étaient aussi rassises que du pain vieux d'un mois, lorsqu'elles valaient mieux que de vulgaires rumeurs. Cela dit, ça n'avait aucune importance. Même si la Tour Blanche subissait pour de bon un schisme, et si des hommes capables de canaliser étaient vraiment appelés à Kemlin, le monde devrait se passer de Rodel Itourald jusqu'à la réunification de l'Arad Doman, un objectif ambitieux qui suffisait à occuper à plein temps n'importe quel individu sain d'esprit. Pour la énième fois, le général repensa aux ordres, les siens, que des cavaliers rapides comme le vent apportaient à tous les nobles loyaux au roi. Malgré leur kyrielle de disputes et de vendetta, ces hommes avaient encore ça en commun. Puisque les consignes venaient du loup, le surnom d'Itourald, ils lèveraient leurs armées et se mettraient en mouvement quand il le leur dirait, tant qu'ils seraient en grâce auprès du souverain. S'il le leur ordonnait, ils se cacheraient même dans les montagnes, attendant le signal d'agir. Pas sans rechigner, bien sûr. et plusieurs maudiraient même son nom, mais ils obéiraient. Le loup, ils ne l'ignoraient pas, remportait des batailles. Mieux encore, il gagnait des guerres. Le petit loup, comme il le surnommait dans son dos. Qu'ils se moquent de sa taille si ça les amusait. Enfin, pas trop quand même, tant qu'il lui obéissait au doigt et à l'œil. Très bientôt, il devrait chevaucher durement pour mettre en place un piège qui ne se refermerait pas avant des mois. Un plan au long cours très risqué. Toutes les manœuvres de ce genre pouvaient échouer de 100 façons, et la sienne était d'une folle complexité. Au point que tout serait fini avant d'avoir commencé, s'il ne parvenait pas à fournir l'appât, ou si quelqu'un contrevenait à son ordre d'éviter les messagers du roi. Cela dit, tous ces hommes connaissaient ses motivations, et dans le lot, les plus guindés les partageaient, même s'ils répugnaient à évoquer le sujet à haute voix. Lui-même, il s'était montré très discret, depuis qu'il avait reçu le dernier ordre en date d'Al-Salam. Une missive qu'il gardait dans sa manche, sous la dentelle blanche qui tutoyait le bord de son gantelet renforcé de fer. Ils avaient une chance, une minuscule chance, de secourir la rate d'Oman. La dernière, et sans doute la dernière aussi de sauver le roi Al-Salam de lui-même, avant que le conseil des marchands décide d'asseoir quelqu'un d'autre sur le trône. Plus de 20 ans durant, cet homme avait été un bon dirigeant. Veuille la lumière qu'il le redevienne. Un craquement sonore au sud incita Ithourald à poser la main sur la poignée de son épée longue. Autour de lui, du cuir grinça et du métal cliqueta, tandis que ses compagnons l'imitaient. À part ça, plus un bruit. Dans la forêt silencieuse, on entendait seulement, de temps en temps, le bruit sec d'une branche qui cède sous le poids de la neige. Au bout d'un moment, Ithourald se détendit, si on pouvait parler ainsi, car il était sur des charbons ardents depuis que des rumeurs venues du nord évoquaient l'apparition du dragon réincarné dans le ciel de Falm. L'homme était peut-être bien le dragon réincarné, et qui sait, on l'avait peut-être vu dans le ciel. Quoi qu'il en soit, ces rumeurs avaient mis l'Arad Doman à feu et à sang. S'il avait eu la bride sur le cou, Ithourald aurait pu étouffer cet incendie, c'était certain. Aucune vantardise là-dedans. En matière de bataille, de campagne ou de guerre, il s'estimait à sa juste valeur. Hélas, depuis que le conseil avait décidé de l'exfiltrer de Bandar Eban pour sa sécurité, Al-Salam se prenait pour la réincarnation d'Arthur El de Faucon, sa signature et son sceau ornant la multitude d'ordres qui sortaient à jet continu de sa mystérieuse cachette. Même à Ithourald, les membres du conseil, des femmes dans une écrasante majorité, refusaient de dire où le roi se tairait. Pire encore, ces gens faisaient mine de ne pas le savoir, avec une telle conviction que le général était parfois tenté de les croire. Une idiotie, bien entendu. Le conseil ne quittait pas le roi des yeux une minute. Selon Ithourald, les maisons marchandes se mêlaient un peu trop de tout. Là, il aurait aimé qu'elles s'impliquent davantage. Pourquoi se taisaient-elles? Un mystère. Car un souverain qui nuisait au commerce ne restait jamais bien longtemps sur le trône. Loyal à ses serments, d'autant que le roi était un ami, le général ne pouvait pourtant pas se voiler la face. Les ordres d'Al-Salam, proches du grotesque, étaient un moyen infaillible de parvenir au chaos. Mais comment les ignorer? Après tout, le roi restait le roi. Certes, mais il avait d'abord ordonné au général de foncer à la rencontre d'une horde de fidèles du dragon, dont des espions secrets lui avaient signalé la présence au nord. 10 jours plus tard, alors que pas un ennemi n'avait pointé le bout du nez, un contre-ordre avait renvoyé la troupe vers le sud, en quête d'une autre horde fantôme. Ensuite, le général avait dû concentrer ses forces sur la défense de Bandar Eban, alors qu'une attaque sur 3 fronts aurait mis un terme à tout ça, puis les diviser, à un moment où un assaut massif eût été victorieux. Cerise sur le gâteau, le roi l'avait lancé à l'attaque d'un site abandonné par les fidèles, puis forcé à s'éloigner de l'endroit où il campait pour de bon. Pire encore, les ordres d'Al-Salam étaient souvent arrivés directement entre les mains des nobles censés suivre Ithourald. Du coup, Machir était parti dans une direction, Théakal dans une autre, et Rahman dans une troisième. En 4 occasions, en pleine nuit, des alliés s'étaient entretués en croyant être enfin tombés sur l'ennemi. Tout ça sur ordre du roi, naturellement. Pendant ce temps, les fidèles du dragon avaient gagné en nombre et en confiance. De son côté, Ithourald s'était couvert de gloire à Solange, à Masséenne, au lac Somal et à Kandelmar. Les seigneurs du Qatar n'étaient pas prêts de revendre aux ennemis de l'Arad Doman le produit de leurs mines et de leurs forges, Mais comme d'habitude, les ordres d'Al-Salam avaient tout gâché. Le dernier était différent. Pour commencer, avec l'intention d'intercepter le message, un homme gris avait tué Dame Touva. Mais le pli était quand même arrivé à son destinataire. Incapable de deviner pourquoi ce plan dérangeait les ténèbres plus que les précédents, Ithourald s'était empressé de l'exécuter avant qu'Al-Salam lui en envoie un nouveau. Cet ordre ouvrait une myriade de possibilités, et le général les avait toutes étudiées. Les plus prometteuses commençaient ici et aujourd'hui. Quand il restait de maigres chances de succès, il fallait savoir les saisir. Dans le lointain, le cri strident d'un jet des neiges retentit, vite suivi par un deuxième et un troisième. Les mains en coupe devant sa bouche, Ithourald répéta les trois appels. Peu après, un hongre paume l'éclair sortit du couvert des arbres. Sur une telle monture, le cavalier vêtu d'un manteau blanc rayé de noir avait tout pour passer inaperçu dans la forêt, surtout quand il ne bougeait pas. Du genre costaud, le type portait une épée courte sur le flanc. À sa selle pendait un carquois et un arc glissait dans son étui.
« On dirait bien qu'ils sont tous venus, Seigneur, »
annonça-t-il de sa voix en permanence rauque. Dans sa jeunesse, pour une raison oubliée, quelqu'un avait tenté de pendre Donjel. Alors qu'il abaissait sa capuche, révélant ses cheveux courts grisonnants, Ithourald se souvint que le cache-noir, sur l'œil droit du type, était un autre souvenir de ses débuts tumultueux dans la vie. Borgne ou pas, Donjel restait le meilleur éclaireur que le général ait connu.
« Presque tous, »
corrigea-t-il.
« Autour du pavillon de chasse, ils ont posté deux cercles concentriques de sentinelles. On les voit à une demi-lieue à la ronde, mais il est impossible d'approcher sans se faire repérer. » Ce qui laissera le temps de filer aux occupants du pavillon. À voir les empreintes, ils ont rassemblé moins d'hommes que vous le pensiez, mais ils sont quand même bien plus nombreux que nous.
Ithourald acquiesça. Les hommes qu'ils allaient rencontrer avaient accepté le ruban blanc qu'ils proposaient. Pendant trois jours, avec la lumière pour témoin et le salut de leur âme comme enjeu, ses interlocuteurs et lui n'auraient pas le droit de dégainer leurs armes, ni de verser le sang d'une autre manière. Cela dit, dans cette guerre, on n'avait pas encore recouru au ruban, et certains individus, par ces temps, avaient une étrange conception du salut. Les fidèles du dragon, par exemple. Souvent qualifié de « flambeur », le général n'en était pas un. L'astuce, c'était de savoir évaluer les risques, et de prendre les bons quand il le fallait. Ithourald tira de sa botte un paquet enveloppé de soie huilée et le tendit à Donjel.
« Si je ne suis pas à Guet de Coron dans deux jours, apporte ceci à ma femme. »
L'éclaireur glissa l'objet sous son manteau, salua le général et s'éloigna vers l'ouest. Des paquets semblables, Ithourald lui en avait déjà confié plusieurs, presque toujours à la veille d'une bataille. Veuille la lumière que Tamsin, son épouse, n'ouvre jamais celui-là. Dans le cas contraire, avait-elle prévenu, elle viendrait tirer les pieds du défunt, le premier exemple connu d'une vivante en temps un mort.
« Jalam, » dit le général, « allons voir ce qui nous attend dans le pavillon de chasse de Dame Osana. »
Il talonna Flèche et ses compagnons le suivirent. Alors qu'il chevauchait, le soleil atteignit son zénith, puis amorça sa descente. Au nord, les nuages noirs approchaient, et il faisait de plus en plus froid. À part la neige qui crissait sous les sabots, pas un bruit dans la forêt apparemment déserte. Ne voyant pas les sentinelles dont avait parlé Donjel, Ithourald conclut que l'éclaireur avait une notion bien à lui de ce qu'était une demi-lieue à la ronde. Ces sentinelles devaient être à l'affût, cherchant à repérer l'armée qui suivait peut-être le général, ruban blanc ou non. Parmi ces hommes, beaucoup avaient d'excellentes raisons de vouloir cribler de flèches Rodel Ithourald. En principe, le ruban blanc engageait aussi l'honneur des soldats d'un seigneur, mais ça n'avait rien de garanti, le genre de risque qu'il fallait prendre, en somme. Au milieu de l'après-midi, le prétendu pavillon de chasse d'Osana apparut entre les arbres. Un complexe de tours claires et de flèches élancées qui n'aurait pas déparé parmi les palais de Bandar-Eban, réputés pour leur splendeur. Authentique chasseresse, Osana traquait les hommes et le pouvoir. Malgré sa relative jeunesse, ses nombreux trophées imposaient l'admiration. Et les chasses qu'elle organisait ici auraient fait froncer plus d'un sourcil, même dans la capitale. Aujourd'hui, le pavillon était en ruine, ses fenêtres brisées évoquant des bouches béantes aux dents ébréchées. Derrière, on ne captait ni lumière, ni mouvement. Mais la neige, autour du bâtiment, portait de nombreuses empreintes de chevaux. Sans ralentir, le général franchit le portail ornementé et entra dans la cour,
où le martèlement des sabots se fit plus franc sur les pavés couverts de neige à demi fondus. Comme il l'avait prévu, aucun serviteur ne vint l'accueillir. Dès le début des troubles qui secouaient la rade d'Oman, comme un chien secoue le rat qu'il tient dans sa gueule, Osana s'était éclipsée et ses domestiques avaient filé dans ses autres résidences, acceptant les postes les plus humbles. Par ces temps, sans employeur, on crevait de faim ou on se reconvertissait dans le banditisme, à moins de rejoindre les fidèles du dragon. Après avoir mis pied à terre devant le grand escalier de marbre, le général tendit les rênes de flèche à un de ses hommes. Quand Jahalam leur eut ordonné de s'abriter là où ils le pourraient, avec leur monture bien entendu, les soldats avancèrent, presque sûrs que des carreaux d'arbalète jailliraient des balcons ou des fenêtres du pavillon. Négligeant les portes entrebâillées des écuries, ils se répartirent aux quatre coins de la cour et se pressèrent contre les chevaux. Malgré le froid, ils préféraient voir venir de loin le danger. Si le pire se produisait, quelques-uns auraient une chance de s'en tirer. Jahalam à ses côtés, Ithurald retira ses gantelets, les glissa à sa ceinture et lissa la dentelle de ses poignets. Sur les marches, alors que la glace craquait sous ses semelles, il s'interdit de regarder nerveusement alentour. Le regard bien droit, il devait exsuder l'assurance, comme s'il était impossible que les choses tournent mal. La confiance, une des clés de la victoire. Souvent, faire croire à l'ennemi qu'on en débordait était aussi efficace qu'en être vraiment empli. Au sommet de l'escalier, Jahalam ouvrit un des lourds battants sculptés, muni d'un anneau d'argent. Du bout d'un index, Ithurald s'assura que son grain de beauté était bien en place. Sur sa joue glacée, il ne sentait plus le contact de la petite mouche de velours noir. En tout point, le comportement qu'il aurait eu en se rendant à un bal. Dans le hall d'entrée, on gelait autant qu'à l'extérieur. Précédé par deux nuages de buée, le général et son compagnon s'enfoncèrent dans une nappe de pénombre. Malgré l'absence de lumière, ils remarquèrent le sol en mosaïque, des scènes de chasse avec des personnages et des animaux. Par endroits, les carreaux étaient ébréchés, comme si on avait traîné dessus de lourds objets ou si on en avait laissé tomber. N'était un socle renversé qui devait jadis supporter un gros vase ou une petite statue, il n'y avait rien dans ce hall. Plus rien, pour être précis. Des pillards s'étant emparés du peu que les domestiques n'avaient pas emporté. Les cheveux blancs, plus émaciés que lors de sa dernière rencontre avec le général, un homme seul attendait les visiteurs. Le plastron cabossé, un simple anneau d'or en guise de boucle d'oreille, il arborait des dentelles immaculées, et en des temps moins sinistres, le croissant de lune rouge qui scintillait près de son œil gauche aurait fait bonne figure à la cour.
« Au nom de la lumière, sois le bienvenu sous les auspices du ruban blanc, Seigneur Ithurald, »
dit-il en s'inclinant.
« Au nom de la lumière, Seigneur Shimron, je viens sous la protection du ruban blanc. »
La réplique rituelle. Pendant longtemps, Shimron avait été un des plus proches conseillers d'Al-Salam, jusqu'à ce qu'il rejoigne les fidèles du dragon, pour atteindre très vite un poste élevé dans leur hiérarchie, bien entendu.
« Mon compagnon se nomme Jahalam. Il est lié par l'honneur à la maison Ithurald, comme tous les membres de mon escorte. »
Avant Rodel, il n'existait pas de maison Ithurald. Main sur le cœur, Shimron répondit quand même à la courbette de Jahalam.
« L'honneur inspire le respect, » dit-il. « Seigneur Ithurald, vous voulez bien me suivre ?»
Les grandes portes de la salle de bal manquaient à l'appel. Perplexe, Ithurald se demanda quel pillard avait bien pu les emporter. Quoi qu'il en soit, ça laissait une arche en ogive assez large pour laisser passer 10 hommes. Dans l'immense pièce, une cinquantaine de lanternes de toutes les formes et de toutes les tailles luttaient contre les ombres, sans parvenir à éclairer la voûte. À droite et à gauche de la salle, adossés au mur peint, deux groupes d'hommes se faisaient face. Sans casque, par la grâce du ruban blanc, mais en armure et armée, ces quelques 200 gaillards se regardaient en chiens de faïence. D'un côté se tenait un trio de Domani aussi puissant que Shimron, Rajabi, Wakeda et Ankaer, chacun flanqué de ses seigneurs mineurs, de roturiers sous serment et de petits groupes de 2 ou 3 membres qui ne comptaient aucun noble. Chez les fidèles du dragon, il existait des conseils, mais pas de dirigeants suprêmes. Pourtant, tous ces hommes étaient des chefs légitimes, certains dénombrant leurs partisans par vingtaines et d'autres par milliers. Aucun ne semblant ravi d'être là, 2 ou 3 jetaient même des regards noirs au mur d'en face, devant lequel se pressait une cinquantaine de tarabonnais qui leur rendaient bien leur agressivité. Tous des fidèles du dragon, peut-être, mais pas épargné pour autant par la haine recuite que se vouaient les Domani et les Tarabonais. Devant ce spectacle, Itourald dut se retenir de sourire. Tant de non-Domani, vraiment? Il n'avait pas compté sur la moitié.
« Le seigneur Rodel Itourald vient à nous sous la protection du ruban blanc, »
annonça Shimron.
« Si quelqu'un songe à la violence, qu'il sonde son cœur et pense au salut de son âme. »
Fin du protocole et début des débats.
« Pourquoi nous a-t-il proposé le ruban blanc ?»
demanda Wakeda. Une main sur la poignée de son épée longue et l'autre serrée sur son flanc, il n'avait rien d'un géant, même s'il dominait Itourald de quelques pouces. En revanche, il affichait l'arrogance d'un roi. En son temps, les femmes le trouvaient séduisant. Aujourd'hui, un cache-noir dissimulait l'absence de son œil droit, et son grain de beauté, tel une tête de flèche, semblait viser la balafre qui courait de sa joue à son front.
« Itourald veut-il se joindre à nous, ou exiger notre reddition ? Comme nous le savons tous, le loup est aussi courageux que rusé. Serait-il téméraire au point de nous défier ?»
Des murmures coururent dans les rangs des Domani. Un mélange d'amusement et de colère. Pour s'empêcher de jouer avec le rubis de son oreille gauche, Itourald croisa les mains dans son dos. Ce tic avec le rubis, c'était notoire, indiquait que la moutarde lui montait au nez. Parfois, il délivrait délibérément cette information. Pour l'heure, il devait paraître calme. Tant pis si cet homme parlait comme s'il n'était pas là. Sous l'influence de la colère, on pouvait défier quelqu'un en duel. Mais il était là pour en livrer un. Et cet exercice demandait une parfaite maîtrise de ses nerfs. Les mots, il le savait, pouvaient être aussi mortels que les armes.
« Ici, » dit-il, « nous sommes tous informés que nous avons un nouvel ennemi au sud. Les Séanchaniens ont submergé le Tarabon. »
Itourald balaya du regard les Tarabonais, dont aucun ne broncha. Sur les visages de ces gens, ils n'avaient jamais rien su lire. Avec leurs grotesques moustaches, quasiment des défenses poilues, pire encore que les bacchantes de rigueur au Saldaïa, et leurs ridicules voiles, ils auraient aussi bien pu porter un masque. Et la pénombre, bien entendu, n'arrangeait rien. Mais il avait vu ces hommes équipés d'un voile en côte de maille, et il avait besoin d'eux.
« Après avoir déferlé dans la plaine d'Almoth, ils continuent vers le nord. Leurs intentions sont claires, conquérir l'Arad d'Oman, puis le reste du monde. » « Le seigneur Itourald vient-il pour savoir qui nous soutiendront si les Séanchaniens nous envahissent ?»
demanda Wakeda.
« Seigneur Wakeda, je ne doute pas un instant que vous combattriez pour l'Arad d'Oman. »
Wakeda s'empourpra sous cette insulte. Comment pouvait-on seulement envisager le contraire ? Avec un bel ensemble, ses compagnons portèrent la main à leurs armes.
« Selon les réfugiés, »
intervint Shimron, comme s'il craignait que Wakeda oublie le ruban blanc.
« Il y a des aïels dans la plaine. »
Si Wakeda ne dégainait pas son arme ou ne leur ordonnait pas de tirer la leur, ses partisans ne prendraient pas les devants.
« Ces Aiel combattent pour le dragon réincarné, à ce qu'on dit, »
continua Shimron.
« Il a dû les envoyer, peut-être pour qu'ils nous soutiennent. Dans l'histoire, nul n'a jamais vaincu les Aiel, pas même Arthur Eldefaucon. Seigneur Itourald, vous vous souvenez des neiges de sang dans votre jeunesse. Quoi que prétendent les chroniques, « vous me concéderez que nous n'avons pas vaincu lors de cette bataille. Et les Séanchaniens, selon moi, sont moins nombreux que nous l'étions alors. Pour ma part, j'ai entendu dire que les envahisseurs se dirigent vers le sud, à l'opposé de la frontière. Croyez-moi, la prochaine nouvelle, ce sera qu'ils se retirent de la plaine d'Almoth, pas qu'ils fondent sur nous. »
Sur le terrain, Shimron n'était pas un mauvais chef, mais ce qu'il pouvait être pédant. Itourald sourit. Du sud, les nouvelles arrivaient plus vite que de partout ailleurs, mais il avait craint de devoir mentionner lui-même les Aiel, au risque que ses interlocuteurs le soupçonnent de les manipuler. À dire vrai, il avait lui-même du mal à y croire. Des Aiel dans la plaine d'Almoth. Prudent, il n'ajouta pas que des guerriers du désert, chargés d'aider les fidèles du dragon, seraient d'abord apparus en Arad d'Oman.
J'ai moi aussi interrogé des réfugiés. Ils parlent de raids d'Aiel. Pas de troupes nombreuses. Dans la plaine, ces guerriers ont sûrement ralenti les Séanchaniens, mais ils ne les ont pas forcés à battre en retraite. Les monstres volants des Séanchaniens ont survolé notre côté de la frontière. Ça ne milite pas en faveur d'une débandade.
D'un geste théâtral, Itourald sortit la missive glissée sous sa manche et la brandit, afin que tout le monde voie l'épée et la main en cire vert et bleu. Comme de coutume ces derniers temps, il s'était servi d'une lame chauffée pour soulever le sceau royal sans le rompre. Ainsi, il pouvait le montrer aux sceptiques, de plus en plus nombreux, quand il était question des ordres d'Al-Salam.
Le roi m'ordonne de rassembler autant d'hommes que possible, afin de frapper à mort les Séanchaniens.
Le général prit une grande inspiration. Là, il flambait pour de bon, car Al-Salam risquait de finir la tête sur le billot avant que cette affaire soit terminée, ou au moins que le dé se soit arrêté sur la bonne face.
« Je vous offre une trêve. Au nom du roi, je m'engage à ne pas lever le petit doigt contre vous, tant que les Séanchaniens menaceront l'Arad Doman. En échange, je vous demande de prêter le même serment et de m'aider à les combattre et à les repousser. »
Un silence stupéfié tomba sur la salle. Rajabi, un colosse au cou de taureau, semblait ne pas en croire ses oreilles. Comme une fillette troublée, Wakeda se mordillait la lèvre.
« Seigneur Iturald, souffla Shimron, peuvent-ils être repoussés? Comme vous, dans la plaine d'Almoth, j'ai vu leurs Aes Sedai enchaînés. »
Furieux, des hommes sautèrent nerveusement d'un pied sur l'autre. Personne n'aimait se reconnaître impuissant face à un ennemi, mais dans l'assistance, il y avait beaucoup de vétérans des premiers jours du conflit. Comme Iturald et Shimron, ils savaient à quoi s'en tenir au sujet des Séanchaniens.
« Ils peuvent être vaincus, Seigneur Shimron, » répondit le général. « Même avec les petites surprises qu'ils nous réserveront. »
Une étrange façon de s'exprimer. La terre qui s'ouvre sous vos pieds, des éclaireurs montés sur des créatures de ténèbres volantes, mais le général devait parler avec l'assurance qu'il affichait par ailleurs. De plus, quand les surprises n'en étaient plus vraiment, on finissait par s'adapter. Un des fondamentaux de la stratégie, bien longtemps avant le retour des Séanchaniens. L'obscurité les privait d'une partie de leur avantage, tout comme les orages. Et un bon devin du climat pouvait toujours prévoir l'arrivée d'une tempête.
« Un sage arrête de mâcher quand il arrive à l'os, » reprit le général. « Jusque-là, les Séanchaniens ont trouvé dans leur assiette des tranches de viande bien découpées. Je compte leur servir un morceau plus difficile à mastiquer. De plus, mon plan devrait les faire claquer des mâchoires si vite qu'ils se briseront les dents sur l'os avant d'avoir arraché une bouchée de chair. « Bien, je viens de m'engager à ne pas vous nuire. Qu'en est-il de vous ?»
Iturald eut du mal à ne pas retenir son souffle. Plongé en lui-même, chaque homme semblait se repasser en boucle ses paroles. Le loup avait un plan. Oui, mais les Séanchaniens détenaient des Aes Sedai. Ils disposaient de monstres volants et la lumière seule savait de quoi d'autre. Certes, mais le plan du loup, les Séanchaniens, le loup.
« Si un homme peut les vaincre, « c'est vous, Seigneur Iturald, »
dit enfin Shimron.
« Je prête le serment que vous nous avez demandé. »«
Moi aussi !»
cria Rajabi.
« Nous les jetterons dans l'océan d'où ils viennent !»
Un coup de taureau et le tempérament qui allait avec. Contre toute attente, Wakeda jura avec le même enthousiasme que les deux autres. Du coup, des dizaines d'hommes l'imitèrent, clamant leur loyauté vis-à-vis du roi et leur volonté d'écrabouiller les Séanchaniens. Les plus fervents jurèrent qu'ils suivraient Iturald jusque dans la fosse de la perdition, s'il le fallait. Des réactions flatteuses, certes, mais le général n'était pas venu que pour ça.
« Si vous voulez que nous luttions aussi pour l'Arad Doman, »
cria un homme,
« posez-nous franchement la question !»
Les Domani qui venaient de prêter serment apprécièrent médiocrement cette intervention. Jubilant sous un masque d'impassibilité, Iturald se tourna vers le Tarabonais qui venait de l'interpeller. Élancé, ce type était doté d'un nez proéminent, qui faisait saillir son voile comme une tente. Mais au-dessus, son regard se révélait dur et perçant. Parmi les Tarabonais, bon nombre faisaient grise mine, comme s'ils n'aimaient pas qu'on ait parlé à leur place. À l'évidence, à l'instar des Domani, ils n'avaient pas de chef. Quoi qu'il en soit, l'homme avait pris l'initiative, lançant le processus. Le général comptait depuis le début recevoir le soutien des Domani. Si agréable que ce fût, ça ne changerait pas la face du monde. Celui des Tarabonais, en revanche, avec eux, le plan aurait 100 fois plus de chances de fonctionner. Après l'avoir salué, Iturald s'adressa courtoisement au précieux trublion.
« Mon bon seigneur, je vous offre une chance de combattre pour le Tarabon. Dans la plaine d'Almoth, les Aïels sèment la panique, si on en croit les réfugiés. Dites-moi, s'il portait une armure ornée de rayures, comme celle des Tarabonais alliés aux Séanchaniens, 100 ou 200 de vos hommes pourraient-ils profiter de cette panique pour entrer au Tarabon ? »
Alors que les Domani marmonnaient agressivement, les Tarabonais se rembrunirent, ce qu'on aurait pu croire impossible, considérant leur mine fermée. Même si les nouvelles étaient rares, ils savaient que la panarche et le roi choisi par les Séanchaniens avaient juré allégeance à une impératrice qui régnait sur l'autre rive de l'océan d'Arit. L'idée que nombre de leurs compatriotes servaient désormais la dite impératrice
leur donnait de l'urticaire. Sur la plaine d'Almot, la plupart des Séanchaniens étaient en réalité des Tarabonais.
Que pourraient faire 100 ou 200 hommes ?
Demanda le Trublion, railleur.
Pas grand-chose, concéda Itourald. Mais imaginez qu'il y ait 50 troupes de ce type, ou 100.
Les Tarabonais ralliés aux fidèles du dragon devaient pouvoir rassembler autant d'hommes.
S'ils frappaient tous le même jour, aux quatre coins du Tarabonne, je suis prêt à venir aussi, avec tous les hommes que je pourrais déguiser en Tarabonais rayés. Ainsi, vous comprendrez que ce n'est pas une astuce pour me débarrasser de vous.
Les Domani râlèrent de plus belle. Wakeda, le beau premier, si étrange que ce fût. Le plan du loup, c'était bien beau, mais ils voulaient le général à leur tête. Les Tarabonais discutèrent entre eux. Tant d'hommes pourraient-ils traverser la plaine sans se faire repérer, même par petites unités? En étant divisés ainsi, que réussiraient-ils à faire? Pour commencer, accepteraient-ils de porter l'armure infamante maquillée aux couleurs des Séanchaniens? En matière de querelle, les Tarabonais n'avaient rien à envier aux braillards du Saldaïa, sauf le type au grand nez. Cherchant le regard du général, il hocha presque imperceptiblement la tête. Avec la moustache et le voile, c'était dur à dire, mais Itourald aurait juré qu'il souriait. Le général comprit que c'était bien parti. Pour signifier son accord alors que ses compatriotes palabraient encore, l'homme devait avoir sur eux plus d'influence qu'il semblait. Tous les Tarabonais seraient dans le coup, aucun doute. Avec le général, ils chevaucheraient vers le sud, en direction de ce que les Séanchaniens tenaient pour leur fief, et ils frapperaient les envahisseurs au visage, comme pour les défier en duel. Après, ils tiendraient à rester chez eux pour continuer le combat. C'était inévitable, et il ne fallait pas espérer autre chose. Dans cette configuration, Itourald et ses quelques milliers d'hommes devraient retraverser la plaine d'Almot avec une meute aux trousses. Une meute furieuse, si la lumière voulait bien briller pour lui. Le général rendit son sourire aux Tarabonais, si sourire il y avait. Avec un peu de chance, les généraux Séanchaniens ne verraient pas où il les entraînait avant qu'il soit trop tard. Dans le cas contraire, il avait un plan de rechange.
Alors qu'il pataugeait dans la neige entre les arbres, Éamon Valda resserra sur son torse les pans de son manteau. Sans la moindre pause, un vent glacé murmurait entre les branches lestées de neige, un son trompeusement paisible à la lumière grisâtre d'un jour humide. Traversant sans peine la laine pourtant épaisse, le froid se répandait jusque dans les os de Valda. Autour de lui, le camp dressé dans la forêt était trop silencieux. En principe, bouger réchauffait un peu, mais les hommes, sauf obligation contraire, préféraient rester groupés et recroquevillés sur eux-mêmes. S'immobilisant brusquement, Valda plissa le nez à cause d'une atroce puanteur, à croire qu'il respirait l'odeur d'une vingtaine de tas d'ordures grouillant d'asticots. S'il réussit à contrôler sa nausée, il laissa libre cours à sa fureur. Ce camp manquait cruellement de rigueur. Partout où les branches pouvaient constituer un abri, on avait installé les tentes sans aucun souci d'efficacité ou de logique. Ça et là, les chevaux étaient attachés à des troncs, au lieu d'être regroupés le long de cordes tendues entre des piquets. Le type de négligence qui conduisait immanquablement à la crasse. Pas assez surveillés, les hommes enterraient le crottin sous quelques pelletées de terre seulement, histoire d'en terminer au plus vite, et ils creusaient des feuillets trop près des tentes, afin de ne pas s'exposer au froid quand ils devaient se soulager. Désormais, tout officier qui autoriserait ces manquements serait dégradé et devrait apprendre sur le tas à manier une pelle. Alors que Valda scrutait le camp pour localiser la source de la puanteur, celle-ci disparut. Pas parce que le vent avait changé, non. L'odeur s'était volatilisée. Brièvement déstabilisé, Valda continua sa ronde, concentré comme jamais. L'odeur était bienvenue de quelque part. Dès qu'il aurait trouvé les hommes qui s'asseyaient sur le règlement, il les punirait, histoire de faire un exemple. En ces temps plus que jamais, la discipline devait être de fer. À la lisière d'une grande clairière, Valda s'immobilisa de nouveau. Ici, pourtant à proximité du camp, la neige était lisse et immaculée. Toujours à l'abri des arbres, le chef des Fils de la Lumière sonda le ciel, où des nuages gris occultaient le soleil de midi. Captant un mouvement, il retint son souffle, mais se détendit, quand il vit qu'il s'agissait d'un petit oiseau marron qui volait bas pour échapper aux rapaces. Valda éclata d'un rire amer. Depuis que les Séanchaniens, que la lumière les maudisse, avaient conquis Amador et la forteresse de la lumière, un peu plus d'un mois s'était écoulé, et il avait déjà développé de nouveaux réflexes. À l'inverse des idiots, les sages apprenaient vite. Intoxiqué par d'antiques récits glorieux enjolivés au fil du temps, Aileron avait espéré gagner le pouvoir qui allait en principe avec sa couronne. Quel imbécile! Refusant de voir la réalité, il avait abouti au désastre d'Aileron, un fiasco qui portait bien son nom, même si on l'appelait aussi la bataille de Jéramel. L'échappatoire de quelques nobles amadiciens survivants, traumatisés par la défaite, qui tentaient de sauver la face contre toute raison. Valda se demanda quel nom le roi Aileron avait utilisé lorsque les sorcières domestiquées des Séancheniens avaient entrepris de réduire en bouillie les rangs bien ordonnés de son armée. Dès qu'il fermait les yeux, le chef des Fils de la Lumière revoyait la terre jaillir pour se transformer en geyser de feu. Dans ses cauchemars, ses images le hantaient. Capturé alors qu'il tentait de fuir, Aileron avait été exécuté, sa tête fichée sur la lance d'un tarabonnet. Une mort adaptée pour un crétin. Valda avait plus de 9000 fils de la lumière avec lui. En des heures très sombres, un homme doté de discernement pouvait tirer un grand parti d'une force pareille. À l'autre bout de la clairière, adossé aux arbres, se dressait une demeure rudimentaire. Une seule pièce et des murs disjoints attaqués par les mauvaises herbes qui appartenaient jadis à un charbonnier. À l'évidence, le propriétaire était parti depuis un bon moment. Sous le toit de chaume qui s'affaissait par endroits, les étroites fenêtres aux vitres depuis longtemps brisées étaient occultées par les couvertures sombres. Devant la porte de guingois, deux colosses montaient la garde, un soleil et un bâton de berger rouge ornant le côté gauche de leur cape. Les bras enroulés autour du torse, ils tapaient du pied pour se réchauffer. Face à un ennemi, ils n'auraient jamais eu le temps de dégainer leur épée. Normal, les confesseurs avaient l'habitude de travailler à l'intérieur. Visage de marbre, ils regardèrent Valda approcher, avant de se fendre d'un salut minimaliste. Pourquoi manifester du respect à un homme qui ne portait pas le bâton rouge? Et tant pis si c'était le seigneur général des Fils de la Lumière. Un des types ouvrit la bouche, sans doute pour lancer un « qui va là ?» Mais Valda l'ignora, avança et poussa la porte. Au moins, les confesseurs ne tentèrent pas de l'arrêter. Sinon, ils les auraient abattus sans sourciller. Dans la maison, Asunawa, assis à une table bancale, une main décharnée serrant une tasse en étain fumante, leva les yeux du petit livre qu'il étudiait. Unique autre meuble de la pièce, sa chaise semblait aussi miteuse que la table, mais on l'avait renforcée avec des lanières de cuir. Valda pinça les lèvres pour les empêcher de dessiner un rictus méprisant. Le haut inquisiteur de la main de la lumière exigeait d'avoir un toit sur la tête, même délabré, plutôt que la toile d'une tente. Et il se régalait de vin aux épices alors que personne, depuis une semaine, n'avait bu ne serait-ce qu'une goutte de piquette. Comble du luxe, des flammes crépitaient dans la cheminée. Avant même le désastre d'Aileron, les feux de cuisson étaient interdits, car ils risquaient de trahir leur position. Alors que la plupart des fils méprisaient les confesseurs, ils éprouvaient un étrange respect pour Asunawa, comme si ses cheveux blancs et son visage émacié de martyr suffisaient à l'auréoler de toutes les vertus qu'il vénérait. Quand il s'en était aperçu, Valda avait eu besoin d'un moment pour s'y faire. Asunawa lui-même en était-il conscient? Le seigneur général ne l'aurait pas juré. Quoi qu'il en soit, il y avait assez de confesseurs dans le camp pour semer le trouble. Rien d'ingérable, mais pour l'instant, mieux valait éviter les problèmes.
« C'est presque l'heure, » dit Valda en refermant la porte. « Vous êtes prêts ?»
Asunawa ne fit pas mine de se lever, ni de saisir la cape blanche pliée sur la table à côté du livre. Sur ce vêtement, il n'y avait pas de soleil, mais uniquement le bâton de berger rouge. Le haut inquisiteur mit les mains au-dessus du livre pour le dissimuler. « La voix de la lumière » de Mantellar, aurait parié Valda. Une étrange lecture pour cet homme. L'ouvrage était plutôt destiné aux nouvelles recrues, dont certaines, illettrées au moment de prêter serment, apprenaient à lire pour s'en inspirer.
« Mon fils, on m'a rapporté qu'une armée andorienne est entrée au Murandi pour s'y enfoncer. »«
Le Murandi est très loin d'ici, » dit Valda, comme s'il n'avait pas remarqué qu'Asunawa jetait du feu sur une huile très ancienne.
Une querelle que l'inquisiteur avait déjà perdue, même s'il faisait mine de l'oublier. Mais que fichaient donc des Andoriens au Murandi, en supposant qu'ils y soient? Trop souvent, les rapports n'étaient que des élucubrations de voyageurs, voire des mensonges délibérés. Andorre, le nom même était une torture pour Valda. Mais aujourd'hui, Morgaz était morte, ou réduite en esclavage par quelques Séanchaniens, des gens qui ne respectaient pas les titres, à part les leurs. Défunte ou devenue servante, Morgaz était perdu pour lui. Plus grave encore, ses plans concernant Andorre ne valaient plus rien. Après avoir été une pièce maîtresse du jeu,
Galadédride redevenait un jeune officier parmi tant d'autres, beaucoup trop aimé par les soldats cependant pour être un bon chef. Par bonheur, Valda était pragmatique. Le passé étant le passé, d'autres plans avaient poussé Andor dans l'oubli.
« Pas si loin que ça, mon fils, si nous nous dirigeons vers l'est à travers le nord de l'Altara. Les Séanchaniens doivent toujours être aux alentours des Boudards. »
Les mains tendues vers les flammes pour les réchauffer, Valda soupira. Au Tarabon et ici, en Amadicia, les envahisseurs s'étaient répandus comme une infection. Pourquoi en aurait-il été autrement en Altara?
Avez-vous oublié la présence des sorcières en Altara, avec une armée à leur côté, si je dois vous rafraîchir la mémoire, sauf si elles sont déjà au Murandi?
Sur les déplacements des sorcières, Valda était enclin à croire les rapports. Malgré lui, il haussa le ton.
Et si cette armée andorienne dont vous parlez était justement la leur? Elles ont livré Kaimlin à Altor, souvenez-vous-en, puis Liliane et la moitié de l'Est. Pensez-vous vraiment que les sorcières sont dévisées? Soyez sincères.
Valda inspira à fond pour se calmer, ou essayer en tout cas. Chaque nouveau récit venu de l'Est était pire que le précédent. S'engouffrant dans la cheminée, un souffle d'air fit volter des flammèches dans la pièce. Avec un juron, Valda recula. Maudite masure de paysan. Rien ne fonctionnait. Asunawa referma le livre entre ses paumes, comme s'il entendait prier. Mais une lueur sauvage dansait dans ses yeux profondément enfoncés.
« Les sorcières doivent être éliminées. Voilà ce que je pense. »«
Je me contenterai de savoir comment les Séanchaniens font pour les domestiquer. »
Avec suffisamment d'Aes Sedai apprivoisés, il aurait été possible de chasser Altor d'Andor, de Liliane et de tous les autres lieux qu'il avait investis, se montrant plus insidieux que les ténèbres. Aux yeux de Valda, cet exploit serait supérieur à ceux d'Aile de Faucon en personne.
« Il faut les éliminer, »
insista Asunawa.
« Et disparaître avec elles, »
grinça Valda. Quand on frappa à la porte, Asunawa marmonna un « oui » agacé. Une main sur le cœur, un des gardes entra, le dos bien droit.
« Seigneur inquisiteur, »
dit-il, plein de respect.
« Le conseil des initiés vient d'arriver. »
Valda attendit la suite. Face aux 10 seigneurs capitaines survivants, en selle et prêts au départ, le vieux fou continuerait-il à s'entêter? Ce qui était fait, parce qu'il avait fallu le faire.
« Si ça provoque la chute de la Tour Blanche, »
soupira Asunawa,
« je m'en satisferai, pour le moment. En attendant, je viendrai à cette réunion. »
Valda eut l'ombre d'un sourire.
« Dans ce cas, je suis satisfait aussi. Ensemble, nous regarderons tomber les sorcières. Moi, en tout cas, j'assisterai à ce spectacle. Vous devriez faire sceller votre cheval. Avant la nuit, nous avons beaucoup de chemin à faire. Toi, Asunawa, c'est beaucoup moins sûr. »